Marthe Bertin. En allant patiner.
Vous patinez, mademoiselle ?
Et sur la réponse affirmative de mademoiselle Desbé, le cœur de ses nouveaux élèves lui fut soudainement conquis. Elle était arrivée le matin même pour remplacer l'institutrice qui venait de se retirer, déclarant, à la grande indignation des enfants, que Ozouad-Guirot était inhabitable l'hiver.
Inhabitable ?
Quand la pièce d'eau est gelée, quand la glace est assez épaisse pour supporter l'assaut des joyeux patineurs. Mademoiselle Desbé arrivait en pleine neige par un froid de 8 degrés. Elle était donc fixée déjà sur les agréments d'Ozouad-Guirot. Quelle était son impression ? Et tout en lui faisant visiter leur domaine, les enfants l'examinaient un peu inquiets. Tout à coup, elle s'arrêta net devant une rangée de patins. Ses yeux brillaient.
« Ah ! S'écria-t-elle, la voix gaie, j'ai apporté les miens à tout hasard !»
Sur quoi le cœur joyeux avait jeté ce cri, qui était à peine une question.
« Vous patinez, mademoiselle ? »
La journée avait été laissée à mademoiselle. La journée avait été laissée à mademoiselle pour s'installer et se reposer, mais les enfants entendaient cela à leur façon. Aussitôt le déjeuner fini,
« Nous allons patiner, dirent-ils. Dépêchez-vous, mademoiselle, pour venir nous rejoindre. »
Et, lui ayant expliqué le chemin à suivre pour aller à la pièce d'eau, ils la laissèrent à son emménagement. Tout fut bientôt rangé, d'ailleurs, et mademoiselle fut, de bonne heure, prête à se mettre en route, à son tour, avec armes et bagages.
« C'est joli, cette neige, qui endort le grand bois, si blanche partout, si différente de la neige des villes, souillée, boueuse, aussitôt tombée. Oh, ce calme de tout ! Il descend en elle, si doux, si reposant, après le souci de l'avenir incertain, les heures pénibles de l'attente, l'inquiétude de ce nouvel inconnu. Là, cependant, comme partout, elle ne sera qu'un pauvre oiseau de passage. » Un jour viendra où il lui faudra reprendre l'éternelle course, toujours seule, sans une heure de repos, sans une heure de repos à un foyer qui soit le sien. Le premier sentier, à droite de la petite avenue, ont dit les enfants. Et Jeanne Desbé, distraite, perdue dans son triste rêve, suit cette indication, à cela près que, la petite avenue n'étant pas celle qui mène à la façade principale, elle lui tourne le dos, et qu'avant même de s'engager dans la grande avenue qui lui fait face, elle a pris à gauche, au hasard, un sentier frayé dans la neige.
« Seule au monde » répète-t-elle. « Pourquoi la vie est-elle si dure ? Pourquoi ?» À ce moment, un joli éclat de rire lui arrive à travers le bois. Le silence est si grand que le moindre son porte loin dans l'air immobile. Pour peu que Jeanne Desbé soit superstitieuse, cette réponse imprévue doit lui sembler d'heureuse augure. Déjà, en effet, elle rit d'elle-même et, se prenant à partie,
« Je deviens sentimentale, murmura-t-elle, et saute. Le temps de gémir est passé pourtant. J'ai un toit assuré au-dessus de ma tête, c'est un progrès sur le mois dernier. D'ailleurs, si dure que soit la vie, je serai plus dure qu'elle. » Cette déclaration de guerre lui fait le plus grand bien. Elle s'est arrêtée, mais son pas, maintenant ferme et assuré, foule résolument la neige. C'est que Jeanne est une vaillante. Les accès de découragement sont rares chez elle et de courte durée. Un grain de morale en vient vite à bout et elle n'est pas avare pour elle-même de sages petits conseils. Cette bonne résolution prise, elle en prend aussitôt une autre très pratique. Au plus déshérité, la vie accorde encore, de ci, de là, quelques bonnes heures. Il faut savoir en jouir au passage. Jeanne décide donc de profiter de cette journée de plaisir sans la gâter par des jérémiades inutiles. Et là-dessus, souriante et empressée, elle double encore le pas, augmentant ainsi de plus en plus la distance qui la sépare de ses élèves. Elle commence à en avoir une vague intuition, lorsqu'un bruit de voix la rassure tout à coup. C'est de là qu'est parti déjà ce bel éclat de rire. Le sentier tourne brusquement. Jeanne a devant elle une énorme pièce d'eau, de glace actuellement, déserte de son côté, mais sur laquelle des patineurs évoluent le long de l'autre bord. Le sentier s'arrête là, et la neige est épaisse autour de l'étang, et sans trace de pas. Après quelques secondes de délibération, Jeanne conclut qu'elle doit suivre le même chemin que les autres et la voilà sur ses patins. Quelques pointes d'essai, puis un murmure d'approbation. La belle glace, la vie n'est plus si dure. Toute rose et animée, la languissante personne de tout à l'heure s'est envolée sur la pièce d'eau. En une seconde, elle est sur l'autre bord où les patineurs instantanément sont devenus immobiles. Alors sa voix s'élève toute joyeuse. « Vous m'attendiez ? » dit-elle. Mais non, personne ne l'attendait ici et Jeanne reste pétrifiée, immobile comme eux. Pas un des patineurs ne lui est connu, ce ne sont pas ses élèves. Dans son effarement, l'idée folle la prend de fuir sans explication du même train dont elle est arrivée. Mais quelqu'un déjà lui vient en aide. Un des patineurs est auprès d'elle, incliné, sa toque de fourrure à la main. « Nous ne vous attendions pas, dit-il, et son sourire est des plus encourageants. Mais la surprise est si charmante que nous vous remercions d'être venus. » Et, lui tendant la main, « Voulez-vous me permettre de vous conduire à ma sœur ? » reprend-il aussitôt. « Elle sera heureuse de vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes chez elle ici. » Jeanne est revenue à elle. L'aventure a de quoi l'intimider, sans doute, mais non l'effrayer beaucoup. Elle pensait bien n'être pas tombée dans une tribu de cannibales. Cette assurance donnait délicatement, dès le début, qu'elle va trouver une patineuse parmi ses patineurs, achève de lui rendre ses esprits. Elle accepte donc sans hésiter la main de son chevalier et, la guidant adroitement jusqu'au bout de la pièce d'eau, il l'amène au plus vite près d'un traîneau encombré d'un amas de châles et de couvertures qui s'agitent à leur approche. Une petite tête pâle et maladive s'est soulevée, puis une main s'est tendue, accueillante. « Quelle jolie apparition !» dit une voix douce et faible. « Êtes-vous une petite sirène surgie de l'étang ?» Jeanne s'est penchée. Son cœur, facile à émouvoir, va tout entier à la pauvre créature qu'elle devine, autant qu'elle la voit, si infirme, sous les plis du vêtement dont elle s'enveloppe. Elle rit cependant, car personne, ici, ne doit soupçonner cette pitié qui l'étreint. « Je le voudrais, dit-elle, mais je dois avouer que je suis simplement une mortelle, fort distraite, qui a perdu son chemin. » Et, regardant autour d'elle, « Je croyais être à l'étang d'Oisaguiro, reprend Jeanne. Je devais y retrouver mes élèves. »« Vos élèves ? Alors, vous êtes Mademoiselle Desbé, que nos voisins le grand attendaient aujourd'hui ? Asseyez-vous là, près de moi. Vous êtes ici, presque en pays de connaissance. » Mon frère, Claude Duplessis, a connu votre père. » Jeanne se tourna vers son chevalier. « Vous êtes officier ? » demanda-t-elle vivement. « Je ne le suis plus, mais votre père, Jean Desbé, était mon capitaine quand j'ai donné ma démission. J'ai perdu de vue mes anciens camarades. Cependant, j'ai appris... » Il s'arrêta. « Oui, dit Jeanne tristement, mon père est mort des suites d'une chute de cheval. » J'étais encore bien jeune. » La main de Mademoiselle Duplessis se posa sur la sienne. « Vous n'avez plus de mère non plus, je le sais, » murmura-t-elle. « Votre père a été très bon pour Claude autrefois. Aussi, quand Madame Legrand m'a parlé de vous, j'ai eu tout de suite envie de vous connaître, et maintenant que je vous connais, j'ai très envie de vous aimer, que vous le permettiez ou non. » Et, sans attendre, en effet, de permission, elle attira Jeanne à elle pour l'embrasser. « Que vous êtes bonne !» murmura Jeanne, les larmes aux yeux. « Je n'ai personne pour m'aimer !» Claude entendit cette plainte, si triste dans cette jeune bouche, parce qu'elle témoignait d'un si complet abandon. « Eh bien, dit-il doucement, croyez-moi, acceptez l'affection de ma sœur, elle vous deviendra vite précieuse. » Jeanne ne put répondre. Une fillette, très rouge et passablement échevelée, fondit sur elle à ce moment. « C'est vrai, s'écria-t-elle, que vous êtes Mademoiselle Desbé ? Quel bonheur !»« Merci, dit Jeanne en souriant, mais pourquoi quel bonheur ?»« Parce que, répondit la jeune fille, peu timide évidemment et pas du tout cérémonieuse, j'espère que vous m'apprendrez à patiner comme vous. » « Avec plaisir, dit Jeanne amusée, mais pas aujourd'hui. Mes élèves ?»« Oh, mon oncle les enverra chercher. Nous patinons souvent ensemble, on leur dira que vous êtes ici. » Et la question ainsi tranchée, « Faisons un tour, voulez-vous » reprit-elle impatiente. « Tout à l'heure, ils vous réclameront tous et je n'aurai plus rien. » Comme elle s'arrêtait pour reprendre haleine, au bout d'un instant, « Où avez-vous appris à patiner comme cela ?» demanda la fillette avec admiration. « En Angleterre, j'y ai donné pendant 2 ans des leçons de français et, en échange, j'en rapporte ce talent-là. » « Et bien d'autres !» dit la fillette d'un air entendu. « Je sais ce que Madame Legrand a dit à Tante Louise. Elles ont beaucoup parlé de vous. C'est curieux, n'est-ce pas, que mon oncle ait connu votre père ?» Il a eu du chagrin de quitter son régiment, mais la pauvre Tante Louise est si délicate. C'est pour elle qu'il est revenu, pour s'occuper de la grefferie et y vivre avec elle à la mort de leur père. « Il est bon, mon oncle Claude. Vous ne pouvez pas vous figurer combien !» Mais Jeanne se le figure très bien au contraire. Elle n'a qu'à se rappeler ce sourire qu'il a accueilli, cette voix qu'il a rassurée si vite, pour se sentir prête, maintenant, à envier presque le sort de la pauvre malade qu'elle plaignait tant tout à l'heure. Oh, se sentir entourée, toujours, d'une affection si sûre, d'une protection si forte et si douce. Malgré la résolution prise de ne pas rêver l'impossible, Jeanne soupire. « Ils vivent ici toute l'année parce qu'ils ne sont pas riches et ce n'est pas gai la grefferie. Aussi, mon oncle ne veut pas se marier, il dit... » Ici, Jeanne s'aperçoit avec horreur qu'involontairement, par son silence, elle encourage ce bavardage indiscret. Aussi, sans lui laisser le temps d'achever sa phrase, emmène-t-elle au plus vite la fillette. Ses élèves sont arrivés d'ailleurs et poussent de bruyants hurrahs devant ses prouesses. Pendant tout l'hiver, Jeanne a vécu presque autant à la grefferie qu'à Aussoy-Guéraud. Le frère et la sœur y étaient seuls, et Tante Louise, qui ne partage peut-être pas l'opinion des enfants sur les charmes de l'hiver et l'isolement qu'il entraîne, y a attiré ses voisins le plus possible. Elle a pris un bon moyen, ses voisins ne sont pas incorruptibles et les goûters de la grefferie valent qu'on se dérange. Actuellement, Aussoy-Guéraud est désert. Parents et enfants sont à Paris pour une visite de quelques jours chez la grand-mère. Jeanne, n'étant pas du voyage, a pu, à sa grande joie, accepter l'invitation que lui a faite Tante Louise de venir passer auprès d'elle ses jours de solitude. C'est que les nouveaux amis de Jeanne sont vite devenus ses meilleurs amis. Si les petits l'aiment pour sa belle humeur et son entrain, les grands, ici, l'aiment pour le courage qui se cache sous cette gaieté constante, pour l'énergie qu'elle oppose aux difficultés d'une vie qui compte jusqu'ici tant d'épreuves et si peu de joie. Il l'aime pour tout cela, il l'aime pour elle-même et pour eux aussi, pour ce charme que leur apporte le rayonnement de sa jeunesse. Et Jeanne ? Jeanne est heureuse auprès d'eux, d'un bonheur qu'elle ne veut pas chercher à s'expliquer parce qu'elle en a peur, si vaillante qu'elle soit. C'est si court un jour de bonheur, et les enfants, déjà, parlent du retour. En fermant la lettre qui lui annonce leur prochaine arrivée, Jeanne soupire, malgré elle, si profondément que Claude Duplessis s'avance un peu inquiet. « Une mauvaise nouvelle, mademoiselle Jeanne. »« Oh non !» dit Jeanne, prise d'un remords. « Seulement, les Legrand reviennent déjà. C'est-à-dire, je suis très contente, mais... » Elle ne sait plus ce qu'elle dit et perd contenance devant son regard et son sourire. A-t-il pitié de son embarras? Il se tourne vers sa sœur et, brusquement, quitte le salon. « Jeanne, dit alors Tante Louise, faudra-t-il vraiment vous rendre au Legrand? Nous ne le pourrons plus, ni moi, ni Claude. » Elle a mis ses deux mains sur les épaules de Jeanne, assise auprès d'elle, et se penche comme pour mieux la voir. « La vie entre nous vous ferait-elle peur ? « Voulez-vous nous rester, Jeanne ?» Et ce qu'elle voit dans les yeux de Jeanne l'encourageant, « Voulez-vous nous rester pour toujours » reprend-elle, « devenir ma petite sœur, devenir... » Jeanne, étouffant un cri, a baissé sa tête sur le bras qui l'enlace. « Est-ce oui ?» murmure Tante Louise à son oreille. « Eh bien, allez me chercher Claude et revenez avec lui. » L'hiver est fini. Dans le petit sentier couvert de neige hier encore, tout fleurit maintenant. Jeanne sait la route aujourd'hui, mais elle choisit toujours de préférence ce chemin qu'elle a suivi un jour, seule et triste, et qui l'a menée pourtant au bonheur.